avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. À suivre vos réactions sur l'accord signé samedi soir en République démocratique du Congo entre la majorité et l'opposition. Le texte prévoit, je vous le rappelle, que le président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat s'est achevé le 20 décembre, eh bien que le président reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée, mais le scrutin devra se tenir avant la fin de l'année. En contrepartie, eh bien, l'opposition décrochera le poste de Premier ministre. Le Premier ministre du gouvernement de transition sera issu des rangs du rassemblement de l'opposition. Par ailleurs, un Conseil national sera créé pour veiller justement à l'application de cet accord. Le problème, c'est que beaucoup de questions restent en suspens. D'ailleurs, on le voit bien dans les réactions que nous recevons. Oui, l'accord suscite un certain soulagement, mais beaucoup de prudence dans vos commentaires et vos réactions, notamment qu'il va falloir gérer maintenant la composition du gouvernement. Il va falloir également déterminer la composition de ce comité de suivi, et à cela s'ajoute le fait que certains opposants n'ont pas signé le document. Du coup, la majorité présidentielle pointe du doigt le manque d'inclusivité, et la majorité, elle a signé cet accord sous réserve qu'il soit inclusif. Blocage en perspective, nous en parlons donc durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Si vous nous appelez de France, et je sais que la diaspora congolaise est nombreuse, et elle nous appelle d'ailleurs, je le vois sur l'écran, 09 693 693 70. Léonard, bonjour.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Kinshasa, vous lancez le débat ce matin sur RFI. Qu'avez-vous pensé de la signature de cet accord ?
Juan Gomez, il faut dire que cet accord, bien que n'étant pas parfait, mais il suscite un certain ouf de soulagement dans le chef de la population congolaise, étant donné que cet accord intervient au moment où il y avait une crise majeure risquant de plonger le pays dans le chaos. Maintenant, la question qu'il faille se poser maintenant, c'est cet accord est-il inclusif ou pas? Moi, je dirais tout simplement que ça l'est, dans la mesure où il y a eu des acteurs majeurs de la crise politique qui se sont parler dans une discussion directe sous la médiation de la CINCO.
Des évêques,
et
oui.
Et que maintenant, on a un accord qui nous permet d'arracher des concessions majeures de la part de l'opposition, tout comme de la majorité.
Enfin, vous avez, excusez-moi Léonard, une petite partie de l'opposition. Alors quand je dis partie petite, ce n'est pas péjoratif, mais vous avez ce qu'on appelle le Front pour le respect de la Constitution, qui est mené par le MLC, le principal parti de ce Front. Ce Front n'a pas signé l'accord, et ce Front a des exigences avant de signer l'accord. C'est pour ça que la majorité présidentielle dit l'accord n'est pas inclusif, et il faut que tout le monde le signe pour éviter ensuite que l'on conteste l'accord conclu samedi.
Juan Gomez, je crois que dans ce pays, nous devons éviter l'hypocrisie politique. Je pense que le MLC, avec le Front pour le respect de la Constitution, ont participé à toutes les étapes de la rédaction de cet accord. Et je ne vois pas pour quelle raison le MLC et le Front doivent refuser de signer cet accord. Parce que le MLC et ce Front sont allés dans un but de sortir de la crise et non à la recherche de quelques postes que ce soit, oui, comme ils l'ont dit.
Donc vous avez l'impression, excusez-moi Léonard, c'est intéressant ce que vous dites, vous avez clairement l'impression que si le MLC n'a pas encore signé cet accord, c'est que le MLC négocie en ce moment le partage du pouvoir.
Voilà, c'est tout simplement cela, Juan Gomez. Je crois que ce pays vaut beaucoup mieux que la recherche d'intérêts personnels, la recherche de positionnement politique. Je crois que nous devons nous dépasser. Je suis très content du fait que les Congolais ont la capacité de se rencontrer sans médiation internationale et sortir un accord. Alors nous devons continuer dans cette perspective de la recherche de solutions aux problèmes congolais.
Ouais, des négociations, des discussions qui doivent reprendre d'ailleurs dans l'après-midi. Les différentes parties doivent présenter leurs propositions aux évêques, hein, qui sont les médiateurs de ces négociations. Merci Léonard, bonne journée à Kinshasa. On reste dans la capitale congolaise avec Jean-René, qui lui aussi se dit satisfait de cet accord, sauf, dit-il, sur un point. Bonjour Jean-René.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors sur quel point vous n'êtes pas d'accord avec le document signé samedi ?
D'abord je suis satisfait de cet accord parce que une fois de plus, les Congolais ont exprimé leur capacité de dépasser leur ego pour mettre l'intérêt de la nation au centre de nos préoccupations, le cas échéant, l'organisation des élections. Et je suis encore satisfait du fait que l'accord entre dans l'esprit de cet accord premier qui a été signé à la cité de l'OIA, dont l'article 24 insistait sur plus d'inclusivité, afin que chaque Congolais puisse donner le meilleur de lui-même.
Alors, je rappelle effectivement, je rappelle simplement pour les auditeurs qui écoutent et qui s'intéressent un peu à la République démocratique du Congo, mais qui n'ont pas tous les éléments pour comprendre. Il y a eu un premier accord, effectivement, signé entre le pouvoir et une petite partie de l'opposition en octobre dernier. Donc vous faisiez référence à ce premier accord signé qui prévoyait, qui stipulait davantage d'inclusivité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet accord a été signé par quasiment tous les opposants, sauf quelques-uns. Et donc la majorité présidentielle estime qu'il n'y a pas assez d'inclusivité.
Oui, comme j'étais en train de dire, dans l'esprit du premier accord, on devait chercher plus d'inclusivité. Tel également le sens du travail de la CENCO, qui était habilité à chercher les autres afin qu'ils viennent rejoindre ceux qui étaient dans la cité de l'OIA. Mais il y a un problème qui se pose dans cet accord, dans ce nouvel accord. Le premier, moi j'estime qu'il y a une certaine violation de la Constitution. L'on ne peut pas interdire le peuple de s'exprimer un jour au travers d'un référendum. C'est une violation grave, parce que l'article 5 de la Constitution prévoit les voies par lesquelles le peuple peut s'exprimer, notamment les élections et les référendums.
Mais je comprends pas.
Et quand on interdit, quand on interdit dans un accord politique que le peuple n'a pas le droit un jour de s'exprimer, c'est-à-dire au travers les voies qui lui sont prévues par la Constitution, nous violons la Constitution.
Mais vous faites référence à quoi ? À quelle partie de l'accord, Jean-René ? Parce que j'ai du mal à vous suivre.
L'accord dit clairement que pendant toute cette période
de transition,
à n'importe, pendant toute cette période, nous n'avons pas le pouvoir d'organiser un certain référendum.
Jean-René, que je comprenne bien, vous souhaiteriez un référendum sur quelles questions durant les prochains mois ?
Deuxièmement.
Non mais excusez-moi, Jean-René, sur quelles questions souhaitez-vous un référendum ou pensez-vous qu'il faille organiser un référendum ?
Non, il n'y a pas une question sur question projetée déjà sur.
Donc vous êtes en train de polémiquer sur un point sur lequel vous dites finalement il y a aucun intérêt à organiser un référendum dans les prochains mois.
Mais le fait d'interdire la possibilité un jour, c'est une violation de la Constitution. Un deuxième problème, c'est l'irréalisme quand nous projetons les élections en 2017, pendant qu'on n'a pas présenté une contre-expertise. À la cité de l'OIA, il y avait le travail des experts de la CENI, le travail des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, et ici, avec la CENCO, il n'y a pas eu un travail, une contre-expertise pour nous démontrer, noir sur blanc, que nous pouvons organiser les élections en 2017.
Alors ça, là, sur ce point, Jean-René, vous avez raison sur ce point, Jean-René, de vous interroger. C'est vrai que les questions de 2016, donc de l'année dernière, risquent d'être à nouveau posées en 2017. Je rappelle que les partisans de Joseph Kabila ont toujours dit que si les élections n'ont pas pu se tenir en novembre comme prévu, c'était faute de moyens techniques et faute de moyens financiers. Donc ces questions-là risquent d'être posées dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous interromps, Jean-René, je sais que vous avez tous énormément de choses à nous dire, mais le temps passe très vite et vous êtes quand même un certain nombre à souhaiter prendre la parole ce matin sur l'antenne d'RFI. Je voudrais qu'on aille à Bougimaï, puisque Valérie nous appelle de cette province, de cette ville de la République démocratique du Congo. Bonjour Valérie.
Bonjour Anne.
Bienvenue, nous vous écoutons sur l'accord signé dans votre pays il y a quelques jours.
Oui, sur Abondama, je voulais juste revenir à celui qui est du Kinshasa, qui venait d'intervenir. Il a bel et bien dit que l'accord signé le 31 dernier ressort de l'inclusivité. Alors, cet accord ne veut pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'une petite, vous l'avez souligné aussi, qu'une petite partie de l'opposition a refusé de signer pour raison de convenance personnelle. Et c'est celle-ci qui a donné, qui a prêté mot aujourd'hui à la majorité, qui dit aujourd'hui qu'il n'y a pas consensus, qu'il n'y a pas inclusivité. Alors que la grande partie de l'opposition a signé. Et Babazaï a déclaré qu'elle avait besoin la CENCO devait tenir compte de leur réclamation, leur revendication.
Ouais. Mais Valérie, le réseau téléphone n'est pas très bon avec Bougimaï, mais en même temps, voilà, on a des appels qui nous arrivent de l'intérieur du pays, des différentes provinces congolaises. On a envie de vous entendre. En deux mots, Valérie, le fait que le MLC ne signe pas cet accord, est-ce que ça doit, ou est-ce que ça peut, selon vous, définitivement bloquer la mise en place de la transition?
Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas, mais sinon, là, ça crée maintenant, parce que déjà, la majorité a trouvé, a eu le mot à appliquer. Elle a eu les raisons possibles. Ouais. Parce qu'elles disent maintenant que cet accord doit vraiment régorger l'inclusivité. Pendant ce temps, il faut maintenant qu'elle nous demande de revenir.
Bon, j'ai du mal à vous suivre, hein, Valérie. C'est un peu confus vos explications, mais enfin, bon, voilà, c'est jamais facile de s'exprimer en direct sur une antenne, évidemment. Merci de nous avoir appelé de Bougimaï. Seto, vous êtes à Nantes, en France. Bonjour, Seto.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, Juan, je voudrais ici dire par rapport à cet accord que les œuvres humaines ne manquent pas souvent d'imperfections. Et moi, je soutiens cet accord à 85%. Ah. Pour la simple raison que j'ai trois éléments importants que nous avons, que depuis longtemps, dans toutes les négociations qui ont eu lieu au Congo, nous n'avons pas eu ces trois éléments. Le premier, c'est que le président Kabila a manifesté maintenant ouvertement qu'il n'obligera plus troisième mandat. Et deuxième, le premier ministre sortira de l'équipe de l'opposition, donc du groupe de l'opposition. Et aucune modification constitutionnelle n'aura lieu pendant la transition. Voilà. Ces trois éléments me permettent bien évidemment de soutenir cet accord sans faille.
Oui, sans faille, sans faille, mais permettez-moi de vous rappeler que vous avez dit que vous souteniez cet accord à 85%. Il y a donc 15% du contenu du texte, du document, qui vous froisse un peu. Vous pensez à quoi alors?
Oui, mais les 15%, c'est les déséquilibres des partages qu'ils ont fait là, parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Vous savez que il y a un conseil qui est créé, qui sera présidé par le président de l'UDPS. Entre-temps, le président de l'UDPS se proposera, je sais bien, je connais les partis politiques chez nous, et ce sont eux qui vont proposer le premier ministre. Ils n'ont pas parlé, ils ont parlé de rassemblement, mais je sais qu'il peut-être sortira de l'UDPS. Et à ce moment-là, le premier ministre sera à la manette, mais entre-temps, c'est qui le juge, c'est le conseil qui est dirigé par son président du parti. C'est là où il y a un petit problème.
C'est-à-dire que ce que vous reprochez à l'UDPS, qui est à la tête donc de ce rassemblement de l'opposition, c'est de décrocher à la fois la présidence de ce conseil national qui sera chargé donc de surveiller la bonne application de l'accord, et en même temps de décrocher le poste de premier ministre.
Voilà,
c'est ça.
Ouais. Alors,
ne raccrochez pas assez tôt. Olivier nous appelle de Grande-Bretagne. On va voir si lui aussi est sceptique sur ce point très précis de l'accord. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Anne et bonjour aux auditeurs.
Nous vous écoutons.
Bon, enfin, pour moi, il fallait tout simplement négocier pour faire partir Kabila et son système, parce que c'est ce système qui anéantit le Congo et qui crée ces millions de morts qu'on a à l'Est. Mais ce qui est important aussi, c'est que nous avons un accord qui n'a pas encore des mesures d'application qui sont concrètes. Ça veut dire qu'on a négocié un accord et on n'a pas négocié les mesures pratiques. On peut encore prendre 5, 3 mois, voire 4 mois à négocier cela. Et si on prend ce temps, nous sommes en train de dégrainer sur le temps qu'il faut pour les élections. Les élections de 2017, c'est dans 11 mois. Sans savoir comment ce mécanisme va fonctionner, comment l'accord sera insurveillée, je crois qu'on ne sera pas prêt pour 2017.
Ouais, vous pensez qu'il faudra encore des semaines et des semaines de discussions, de négociations pour s'entendre sur les différents points qui sont encore en suspens?
Déjà, on a déjà des polémiques qui se lèvent au sujet des signatures. Je crois que la majorité présidentielle, ce qui est tout à fait humain, et sera de trouver toutes les petites failles, les petites bêtes, tout faire durer les choses en longueur. Les mesures d'application sont hyper importantes. C'est elles qui garantissent la viabilité de cet accord.
Alors, vous êtes sceptique, Seto à Nantes, lui, était plutôt optimiste. Jonas, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue sur l'antenne.
Bonjour à l'auditeur de RFI.
Alors, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ce matin?
Nous, d'abord, nous saluons l'accord. Pour nous, c'est un correctif au premier accord qui a été obtenu au niveau de la Cité de l'Union africaine, parce que celui-là a failli par le fait qu'il n'arrivait pas à préciser les mandats dirige le pays actuellement, et il n'arrivait pas à nous donner la possibilité de barrer la route au référendum qui visait finalement la révision de la Constitution. Pour nous, cet accord obtenu avec l'appui de l'Église catholique et mérite quand même d'être soutenu, quand bien même on n'a pas tout obtenu, mais au moins on a obtenu ce qu'on pouvait.
Mais alors, attendez, Jonas, vous parlez de nous, alors je ne sais pas si vous êtes le porte-parole d'une quelconque association, organisation, voire même peut-être parti politique, mais vous auriez souhaité obtenir quoi de plus?
Mais nous aurions souhaité, par exemple, avoir avec précision que finalement plus jamais un engagement solennel de la part de la classe politique et plus jamais quelqu'un ne remettra l'ordre constitutionnel qui est mis en place par les accords de San City en question et que désormais dans notre pays on doit passer par cette voie-là en respectant les échéances. Ouais. On n'a pas obtenu.
Tout dépend, excusez-moi, mais on ne va pas refaire un énième débat, mais tout dépend sur l'interprétation que vous avez de la Constitution. Oui, le second et dernier mandat de Joseph Kabila se terminait le 20 décembre, et en même temps, la Cour constitutionnelle, vous en souvenez peut-être pas, mais elle a autorisé le président Kabila à se maintenir à la tête de l'État au-delà de son mandat, si l'élection ne pouvait pas être organisée à la fin de l'année 2016, comme c'était prévu dans un premier temps. Donc constitutionnellement, finalement, il a encore le droit de rester au pouvoir, jusqu'à l'élection du prochain président.
Mais ça, c'est à l'issue de l'accord actuel. C'est pourquoi nous soutenons cet accord. Parce que cette période que nous sommes en train de traverser n'est pas prévue par la Constitution de la République. Oui. Quand il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qui va arriver au pays? Voilà qu'il y a un compromis qui arrive. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous soutenons ce compromis. D'accord. Et même ceux qui refusent de le signer aujourd'hui, nous pensons que leur refus n'est pas de nature. Du travail qui a été donné, ce qui compte, c'est qu'on avance vers...
D'accord, donc vous reprochez au MLC de ne pas avoir encore signé ce rapport. Le réseau se dégrade avec Kinshasa et votre téléphone, Jonas. Merci en tout cas, on a compris l'essentiel. Allez rapidement, il nous reste à peine 2 minutes. Caleb, peut-être? Oui, Caleb, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez, comment allez-vous?
Très bien, nous vous écoutons. Soyez succinct, il nous reste 1 minute 30.
Voilà, en 1 minute 30, ce que je voudrais dire, c'est que je suis déçu par cet accord qui a été conclu le 31 décembre dernier, d'autant plus qu'avec cet accord, je vois encore Joseph Kabila à la tête du pays, alors que c'est lui le problème, c'est lui l'auteur de la crise que traverse le pays maintenant. Il devrait, à mon avis, en tirer des conséquences, c'est-à-dire il aurait dû partir du pouvoir le 19 décembre dernier. Et voilà, là, nous avons loupé l'occasion de le faire partir, les mêmes personnes qui ont pendant plusieurs mois, voire des années, dénoncé sa volonté manifeste de se maintenir au pouvoir, sont allés au centre interdit Césaire pour lui accorder des béquilles pour glisser, exactement comme c'était le cas à la Cité de l'Union africaine.
Mais en contrepartie, l'opposition décroche le poste de Premier ministre. Affaire à suivre, évidemment. On vous redonnera prochainement la parole sur ce dossier qui suscite beaucoup de réactions, notamment sur notre page Facebook. Demain, nous parlerons football, car demain soir, la Confédération africaine de football remettra son trophée de meilleur joueur africain 2016. 3 hommes se disputent le titre. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'Algérien Riyad Mahrez ou encore le Sénégalais Sadio Mané. Vos pronostics, évidemment, nous intéressent. Sandrine Mercier, bonjour.
Bonjour.
Merci.